possible dans des continents divers, et on les a écoutés, et ce qu'ils nous ont dit, c'est la chose suivante, tous à leur façon, d'une manière simple, d'une manière compliquée, d'après leur culture, ils nous disent tous la même chose, que le monde a changé, ce dont les uns et les autres nous nous sommes rendus compte, et que ce monde qui a changé, ce que je vous dis là, des officiers supérieurs de l'armée américaine engagés en Irak, des policiers russes, vous en avez vu quelques-uns derrière nous, ça c'est Boer, mais il y en a d'autres sur le diaporama, des gens qui viennent d'Amérique latine, des Chinois bien entendu, comme vous avez vu, nous disent tous la même chose. Le monde a changé, on ne peut plus faire les choses comme avant, à faire les choses comme avant dans le domaine judiciaire, dans le domaine policier, dans le domaine militaire, dans le domaine du renseignement, on va droit à la guerre de retard, il n'est plus possible de faire comme avant. Pourquoi ? Parce que les choses vont beaucoup plus vite, que la dimension temporelle a acquis une importance terrible, et que, surtout, le plus important, je crois qu'au bout du compte, après avoir fait cette espèce de tour du monde, nous sommes maintenant en mesure de donner une définition un peu précise, générique, de ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde dans lequel l'ennemi ne va pas de soi. Quiconque a l'héritage européen, que pratiquement tous ont ici, sait qu'avant l'ennemi allait de soi. Mon père a fait la guerre de 39-45, mon grand-père a fait celle de 14-18. Quand on leur demandait l'ennemi, c'était simple, facile, ça tenait en un seul mot, ça se faisait très vite. Aujourd'hui, et pour la première fois depuis, en ce qui concerne les Européens, un millénaire, l'ennemi ne va pas de soi. Pendant longtemps, ça a été les Anglais, après ça, ça a été les Allemands, les catholiques pour les protestants pour les catholiques, mais c'était simple à dire. Il faut remonter aux grandes invasions, il faut remonter au 1. Saint-Louis avait envoyé des moines explorer du côté de l'Europe centrale et plus loin pour dire « mais qui c'est ces gens qui nous envahissent, on ne les connaissait pas ». Il faut remonter à une période comme ça pour voir que l'ennemi ne va pas de soi. Et donc l'ennemi ne va pas de soi, c'est le problème essentiel à l'heure actuelle en Irak. Vous avez des documents officiels émanant de l'armée américaine dans le plus haut niveau qui disent « notre problème essentiel, c'est que nous ne savons pas contre qui nous nous battons dans ce pays ». Voilà. Il n'y a pas un truc simple comme le Viet Cong contre qui on se bat. Et donc, cette espèce d'ignorance de l'ennemi ressort de propos officiels, ce ne sont pas des médisances que nous disons, nous analysons des propos officiels. Un important général américain, je crois le numéro 2 ou 3 de la hiérarchie en Irak, voilà un an et demi, a tenu, mais les choses n'ont fait que s'aggraver depuis, comme vous l'avez constaté, a tenu ce propos incroyable et accablant. Il a dit « ça ne marche pas en Irak parce que nous n'avons pas encore en Irak trouvé notre Jerry Adams ». Ce qui signifie, de la manière la plus claire et de la plus limpide, que le pauvre homme s'imagine qu'en face de lui, il a quelque chose qui ressemblerait à l'armée républicaine irlandaise, sauf qu'elle serait musulmane au lieu d'être catholique. Ce qui est naturellement le contraire absolu de ce qu'est l'espèce de nébuleuse contre laquelle ils se battent. Dire que vous voulez bien faire la paix en Europe, mais en 2007, vous n'avez pas encore trouvé le Staline à qui parler, ça prouve quand même une ignorance assez accablante des réalités européennes. Voilà l'espèce d'incapacité de nommer l'ennemi. Je vais commencer donc cette journée, après vous avoir dit que nous vivons dans un monde où l'ennemi ne va pas de soi, on va commencer par déblayer le terrain. Si on veut parler de détection précoce, la détection c'est le versant technique de l'affaire, ou de décèlement précoce, c'est le versant conceptuel de l'affaire, mais c'est la même chose. Il y aura les deux. Il y aura des gens qui vous parleront au concept et des gens qui vous donneront des exemples concrets, techniques, précis. Monsieur Chapuis, Doron Levy, qui vous parleront de choses qu'on peut faire techniquement et en partant de bons principes et de bons concepts pour développer des parades, pour faire ce que nous appelons décèlement précoce et qui est l'équivalent dans le domaine de la sécurité de ce qu'est la médecine préventive dans le domaine de la santé. Hier, je participais à une conférence à l'école de guerre, et un de mes interlocuteurs m'a dit, parce qu'il le constatait, que nous aimions bien, nous, MCC, les images biologiques. Et je lui ai dit que ce n'était pas que nous trouvions nos comparaisons dans le monde biologique. Je lui dis, ça n'est pas par hasard, ça n'est pas par goût de ceci ou de cela, c'est l'observation simplement de la chose suivante, que tout ce qui était dangereux jusqu'à une période récente, jusqu'à l'abolition de l'ordre bipolaire du monde, était d'ordre mécanique. Une armée normale en kaki ou en bleu marine, c'est une entité mécanique. On appuie sur un bouton, il y a des poulies, il y a des... l'image est mécanique, c'est quelque chose comme une horloge. Les groupes terroristes classiques, ceux qu'on a connus, l'armée républicaine irlandaise dont j'ai parlé, la fraction armée rouge, même les brigades rouges, étaient d'essence mécanique. Là aussi, il y avait un comité central des ordres, c'était des sortes de petites armées clandestines organisées selon le mode brigade-bataillon pour l'IRA à l'origine, ou alors organisées par front, par cellule, par réseau. Ça n'est plus du tout ça. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, nous ne connaissons pas bien notre ennemi, nous savons simplement une chose, que du cartel colombien à ce que l'Amérique appelle Al-Qaïda, l'essence, la nature de ces entités dangereuses, elle est biologique. Ça n'apparaît pas par ordre ou par coup de sifflet ou par commandement, ça apparaît comme les champignons après la pluie, il a plu quelque part, les champignons sortent du sol, personne n'a donné à ces champignons l'ordre de pousser, ils poussent parce que leur nature, leur essence est de pousser à ce moment-là. Ce qui fait pousser les groupes islamistes n'est pas, comme le pense le pauvre général dont j'ai parlé tout à l'heure, un ordre donné par M. Zarqawi ou M. Zawahiri ou personne, c'est simplement à la base un sentiment d'injustice, de rage, après avoir vu des images à la télévision, et les choses prolifèrent. Ça se développe de manière biologique. Parmi les champignons qui sortent du sol, certains vont mourir, d'autres vont grandir, et donc au bout du compte, vous avez Londres ou Madrid quelques mois après, quand la poussée s'est suffisamment bien faite. Et ça ne fonctionne pas du tout comme une armée, ça fonctionne comme un champ sur lequel, à certaines circonstances, les choses vont pousser ou ne pas pousser. Donc, je vais déblayer le terrain partant de ces considérations en disant, avant de parler de détection précoce ou de décèdement précoce, il faut parler de ce qui l'empêche, évidemment. Qu'est-ce qui interdit cela? Et une fois qu'on a déblayé ce terrain-là, ce champ-là, on peut rentrer dans le positif. Je vais donc vous parler du négatif. Je vais vous en parler en commençant par un exemple. Exactement 10 mois et 11 mois, dans la période de 10 mois et de 11 mois qui précède la série d'attentats du 11 septembre, précisément entre 10 et 11 mois auparavant, se déroule la campagne électorale présidentielle aux États-Unis. La campagne en question se déroule et dans le cours de cette campagne, il y a des face-à-face entre les deux grands candidats que sont Al Gore et Bush. Ils vont faire 3 face-à-face. Et au total, les 3 face-à-face en question représentent plus de 3 heures de télévision. Au début, je ne le croyais pas quand on me l'a dit, donc j'ai demandé à ce que ça soit visionné, et de fait, à aucun moment, pas une minute, pas une seconde, pendant les 3 heures et quelques de face-à-face, le problème du terrorisme a été abordé. Ça n'a même pas été effleuré. 11 mois et 10 mois, entre le premier et le troisième, avant le 11 septembre. Pourquoi? Eh bien, à cause de la menace la plus grave pour nos sociétés. Cette menace, ça n'est pas Bin Laden qui était là hier et qui sera plus là demain, ça n'est pas tel cartel, telle organisation criminelle ou terroriste, ou même Kim Jong-il, ou même Ahmadinejad, ou quiconque comme ça. La menace la plus grave pour notre société, elle n'est pas exogène, elle ne provient pas de l'extérieur, elle est endogène, elle est à l'intérieur de notre société, elle est la face noire de la société de l'information, et la face noire de la société de l'information s'appelle aveuglement. Qu'est-ce qui fait, en 1941, que Joseph Staline reçoive la visite de son directeur, son chef du renseignement militaire? Ce que je dis là, c'est dans les rapports officiels. Et lui disent qu'est-ce qui se passe, que le chef du renseignement militaire soviétique dise les nazis vont nous attaquer en juin 1941, nous avons les plans, des gens nous les ont communiqués à l'intérieur de l'état-major allemand qui ne veulent pas de cette guerre, etc. La fameuse affaire Sorge, et donc il a les plans, et Staline l'écoute pendant une demi-heure, et lui répond cette phrase historique, jamais mon ami Hitler ne me fera ça. Et il le congédie. Et après ça, le général en question est tué. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes dans un monde où il y a une espèce de fétichisme technologique, où il y a une espèce de croyance naïve et puérile dans les capacités de la technique. Mais ce que nous instruit cette histoire de 1940 et l'histoire de 2001, c'est que rien de technique ne peut fonctionner efficacement à partir du moment où, aux sphères supérieures de l'appareil qui contrôle cette technique, l'aveuglement règne. Voilà, la grande leçon, c'est ça. C'est donc l'aveuglement. L'aveuglement a des tas d'origines. Il peut être le fétichisme en la technologie, il peut être dans l'arrogance intellectuelle, il peut être dans la bienséance qui interdit de parler d'un certain nombre de choses. S'il faut être précis sur ce qu'est la bienséance, la société américaine telle qu'elle est conçue à l'heure actuelle s'est mise à développer une terreur absolue devant les mots. Il y a des mots qu'il ne faut plus prononcer parce que les mots sont sales, les mots sont méchants, les mots font peur. Et donc vous avez à l'heure actuelle cette censure absolument incroyable. Vérifiez, c'est vrai, certains journaux aux États-Unis ont des systèmes informatiques qui rejettent un certain nombre de mots. Vous essayez de taper ces mots sur votre ordinateur, ils ne s'inscrivent pas sur l'écran parce qu'ils sont censurés. Et notamment, parmi les mots qu'il ne faut pas employer parce qu'ils ne sont pas politically correct, il y a tout ce qui touche à ce qui fut notre passé et ce qui est encore le présent d'un certain nombre de cultures à travers le monde, tout ce qui est ethnique, tout ce qui est tribal, tout ce qui est clanique. Alors, à partir du moment où vous partez pour l'Irak, en occultant, en obnubilant, en vous cachant, en refusant d'envisager qu'il puisse y avoir une dimension clanique et tribale, vous vous trouvez, 4 ans après, dans la situation où on en est, à savoir que vous essayez de faire de l'Irak une démocratie, essayant de faire de l'Irak une démocratie, vous essayez d'organiser des élections. Pour faire des élections, il faut naturellement des cartes d'électeurs et des listes électorales, autrement les gens trichent. Et donc, vous envoyez des gens sur place réunir de quoi faire les cartes électorales, vous faites un appel d'offres et vous envoyez, je ne sais pas, Mastercard ou Visa créer des cartes électorales pour les gens. Et naturellement, à la suite de quoi les gens reviennent de Bagdad au bout de 3 semaines en disant « Écoutez, on en est identifié 317 722 Ali bin Mohammed al-Baghdadi et on n'y arrivera pas parce qu'en gros ils ont tous le même nom et que les noms sont des noms de tribus, il y a des tribus de 300 000 membres dans lesquels tout le monde a le même nom, ils s'appellent des sunnites, la grande tribu al-Dulaimi, il doit y avoir 400 000 al-Dulaimi et faire des listes électorales où tout le monde a le même nom, naturellement c'est un peu compliqué. » Et à la suite de quoi, et là encore ça peut se prouver extrêmement aisément, vous êtes obligé d'utiliser un palliatif, à savoir ce que tout le monde a vu à la télévision, le doigt trempé dans l'encre indélébile, comme à la sortie des balles de campagne, parce que quand on ne peut pas faire de liste électorale et que les gens ont tous le même nom et que de ce fait on ne peut pas faire de liste électorale, pour éviter qu'ils aillent voter 50 fois en faisant un tour du pâté de maison en revenant, la seule solution, qui n'est pas extrêmement high-tech, ça consiste à leur faire tremper le doigt dans l'encre. Donc, l'aveuglement, c'est ça, c'est de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir, de ne pas voir un certain nombre de choses, et naturellement, cet aveuglement-là vous plonge dans l'incapacité la plus totale d'alerter les organes techniques, d'alerter les chefs du renseignement, d'alerter les ordinateurs, d'alerter les systèmes d'écoute, en leur donnant les mots qu'il faut. Lutter contre l'aveuglement, ça consiste à se poser tout progrès depuis que la raison pour laquelle nous n'avons plus de peau de lion et de peau d'ours autour des reins et ne vivons pas dans une caverne, c'est parce que à un moment donné, des êtres humains sont posés des questions. La seule manière, l'être humain est fragile, l'être humain n'a pas de carapace, il n'a pas de griffes, il n'a pas de crocs, la seule chose qu'il a, c'est un cerveau. Et donc, en gros, depuis l'origine des temps, l'être humain ne survit qu'à ce qu'il a compris. Les fois où l'être humain n'a pas compris un certain nombre de choses, il a disparu, le Cro-Magnon ou autre. Hein. Donc, l'être humain ne survit qu'à ce qu'il a compris, et donc, pour survivre et pour comprendre, il faut se poser des questions. la société dans laquelle on vit, société de l'information, vit sur un certain nombre de clichés qui reviennent sempiternellement. Et parmi les clichés dont on entend souvent parler et qui reflètent une certaine forme de gâtisme des systèmes d'information qui reviennent, reprennent toujours les mêmes poncifs et qui reviennent toujours sur les mêmes formules, il y a le poncif classique de la ligne Maginot. Et donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose où on a un sentiment de sécurité mais qui n'est pas justifié, on vous parle de ligne Maginot. Alors, naturellement, présenté comme ça, on est dans le radotage. La bonne question n'est pas celle de la ligne Maginot. La bonne question, le questionnement original, ce qui permet de déclencher par la suite tout le processus de détection précoce ou de décèlement précoce, est celui-ci. À quoi ressemblerait une ligne Maginot s'il y en avait une aujourd'hui? Qu'est-ce que la ligne Maginot de 2007? Il ne s'agit pas de gratifier sur une série de tourelles, de bastions, de fortifications et de canons sortant de la montagne. Il suffit de se demander qu'est-ce que c'est que la ligne Maginot de 2007. L'absence absolue de toute référence au terrorisme dans la campagne électorale américaine de 2000. Vous voyez qu'il faut faire une très brève et très laconique allusion à l'actualité, que nous ne sommes pas les seuls à avoir des campagnes électorales où il n'est jamais question de l'important et de l'essentiel. Rassurons-nous, ça arrive aussi de l'autre côté de l'Atlantique, et ça s'est produit en 2000. Donc, la question de la ligne Maginot est la suivante. Quelle est-elle, cette ligne Maginot, qui interdit à l'Amérique de se voir vraiment en danger, qui lui fait croire qu'elle est en sécurité? Cette ligne Maginot de l'an 2000-2001, dont tout le monde nous a bassiné, dont tout le monde nous a dit qu'elle représentait un immense danger, dont tous les gouvernements ont parlé, sur laquelle l'Europe a fait un rapport spécifique, cette ligne Maginot s'appelle le réseau Échelon. Ce réseau était tout puissant, il permettait de tout intercepter sur la surface de la planète. Il permettait de voir tous les mails, tous les courriers, toutes les interceptions téléphoniques possibles et imaginables, tout passait par des satellites, tout était écouté. Ce n'est qu'une ligne Maginot. L'Amérique était aveugle, elle n'a pas voulu voir ce qui la menaçait vraiment. Elle a refusé, elle a refoulé en elle l'idée que ces chouchous de la veille, des Moudjahidines afghans et leurs alliés étaient en train de devenir leurs pires ennemis. Et donc, Échelon n'est qu'un système mécanique, la mécanique ne peut rien à elle toute seule. Vous posez un pistolet sur une table, il ne menacera jamais et ne tuera jamais personne, il est impuissant, la mécanique a besoin de l'être humain, et donc la mécanique, certes extrêmement perfectionnée, cette high-tech qui faisait trembler tout le monde, mais à tort, parce qu'au moment décisif, elle n'a servi à rien, c'était le réseau Échelon. Pourquoi? Parce qu'un réseau, bon, il doit intercepter. Qu'intercepte-t-il? Il intercepte des mots. Les mots en question sont mis dans ce qui s'appelle un lexique, et c'est les mots du lexique qui déclenchent l'interception et le fait que le système va percevoir quelque chose et le transmettre. Il n'y avait pas les mots qu'il fallait à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'aveuglement paralyse ça, justement. Attention au fétichisme technologique, les machines ne peuvent rien pour sauver les gens, elles n'ont rien pu. Ce jour-là, du 11 septembre, les gens qui ont accompli ces actes et ceux autour d'eux, car vous imaginez bien que les 19 n'étaient pas seuls, aucun membre des réseaux de soutien n'a jamais été identifié. C'était sans doute l'opération du 11 septembre, 2 ans de travail pour 50 personnes. Au-delà des 19 qui sont morts, qui étaient les 30 ou 40 autres? On ne les a jamais trouvés. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle, là en 2007, je me suis renseigné encore avant-hier, on n'a pas idée des circuits qui a servi l'argent pour financer tout ça, on ne le sait toujours pas. Pourquoi? Parce que, délibérément, ayant compris le talon d'Achille de l'Amérique qui était le fétichisme de la haute technologie, les gens qui ont monté l'opération en question l'ont montré le plus low-tech possible. Ils s'envoyaient des lettres par la poste et n'ont pas utilisé le téléphone. Et il n'y a plus de cabinet noir maintenant, on n'ouvre plus le courrier, on n'est plus sous Louis XVI. Et donc, ils envoyaient des lettres par la poste pour s'écrire. Ils ne prenaient pas l'avion parce qu'il y a des listings, mais ils prenaient le train ou ils faisaient de l'autostop, etc. Et ainsi, ils sont passés sous le radar, ils sont passés sous la ligne Maginot de l'Amérique, et l'Amérique a été frappée, et jusqu'au dernier moment, précisément, elle n'a rien vu venir. Voilà ce que c'est que le contraire du décèlement précoce. Ça s'appelle l'aveuglement, et l'aveuglement, c'est ce qui vous prend quand vous croyez avoir compris. La pire des formes d'ignorance ne consiste pas à ignorer les choses, mais à croire qu'on les sait. Et donc, elle croyait avoir identifié un certain nombre de menaces. Et la vraie menace, celle qui a vraiment frappé dans le concret des choses, et qui a frappé avec des instruments de fort basse technologie, comme des lettres envoyées avec un timbre collé avec de la salive, la vêtement, et puis des cutters, ça a été donc l'opération qui s'est montée en 2001. Donc, la journée d'aujourd'hui, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'amener à une prise de conscience que ce qui nous menace le plus est en nous, n'est pas à l'extérieur. Et cette chose qui nous menace le plus, celle qui fait qu'on répond « jamais mon ami Hitler ne me frappe pas » ou qu'on ne voit pas venir quelque chose qui a mobilisé des dizaines d'individus pendant des années et, quoique modeste, nécessité à travers la planète des circulations de sommes d'argent quand même conséquentes, c'est ça qui est le plus important. Jamais les machines ne vous diront ce qui vous menace. Il faut les programmer pour ça, et la manière de programmer les machines en question, ça consiste à faire fonctionner le cerveau humain. Notre seule défense, c'est notre cerveau, ça n'est pas les machines qui nous entourent. Ça, on peut le prouver de la manière suivante. Dans un autre domaine, qui est celui de la lutte, non plus cette fois-ci contre le terrorisme, mais contre le crime organisé. Ce qui s'est fait en matière de lutte contre le crime organisé depuis la chute du mur de Berlin est considérable. C'est énorme. Il y a eu d'abord une convention mondiale en 2000 avec notre ami Pino Arlacchi, qui en était l'architecte à Palerme. La convention a unifié les doctrines, les pratiques et bientôt les textes de loi sur la boîte à outils essentielle dont tout le monde a besoin à travers le monde pour lutter contre le crime organisé, c'est-à-dire les outils d'extradition. Les bandits internationaux ne craignent qu'une seule chose, c'est d'être extradés, ramenés dans le pays où les crimes ont été commis et y purger 30 ou 40 ans de prison. Une grande partie de la quincaillerie de la guerre froide, des radars, des avions, des AWACS, les avions, les espèces de tours de contrôle volantes, etc., qui permettent de guider, de redistribuer, d'écouter, etc., ont été reconvertis. Plus tard, dans les jours qui viennent, des textes seront mis en ligne avec la conférence, et dans le texte que moi je mettrai en ligne, il y a des exemples précis, des données précises. Ce qui a été fait sur ce point, c'est-à-dire sur tout ce qui a été fait mondialement pour mettre la planète en ordre de bataille contre les grands trafics internationaux, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, trafic de véhicules volés, trafic d'armes et autres, et sur les acteurs de ces trafics-là, sur les grandes mafias internationales. Il ne faut pas dire que rien n'a été fait, énormément de choses ont été faites. En gros, si vous voulez, un des grands commandements internationaux de l'armée américaine, le commandement du continent américain, celui qui est situé hier à Panama et aujourd'hui dans la zone de l'Amérique centrale, ce commandement-là ne fait plus rien d'autre que d'essayer d'intercepter des narcos et de la drogue. Il n'a plus des sous-marins soviétiques à observer. Pour la première fois dans l'histoire du monde, il y a une confusion totale et au plus haut niveau entre les missions de sécurité et les missions de défense. L'amiral Girard est là, il a des exemples de ça, ça implique aussi naturellement la marine française, et il y a des missions maintenant de plus en plus dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le crime pour des gens qui auparavant n'affrontaient que des adversaires eux-mêmes en uniforme dans le cadre de batailles classiques, de guerres conventionnelles. Ça n'est plus le cas. Et donc, vous avez la dimension de sécurité et la dimension de défense qui sont confondues, vous avez des états-majors entiers qui ont été reconvertis, vous avez une grande partie du matériel de la guerre froide qui a été redistribué et réorienté vers les missions de sécurité, et donc, dans le domaine de la lutte contre le crime, énormément de choses ont été accomplies, je vous en donnerai, j'insiste, une liste, bon, ce qui est impressionnant, enfin, je ne peux pas tout vous dire là, mais à l'échelon international, des centaines d'actes internationaux ont été signés de pays à pays, de continent à continent, de blocs, des administrations entières ont été montées ex nihilo à partir de 1989 pour lutter à l'échelle internationale contre le blanchiment, de véritables bureaucraties à l'échelle mondiale. Et cependant, l'échec est là, et l'échec est massif. S'il me faut donner un seul exemple qui nous intéresse, nous, Européens, il y a en 2000, François parlait tout à l'heure de l'inondation de cocaïne en Europe, dans l'Union Européenne. Ce sont des chiffres officiels fournis par l'Union Européenne. Il y a 5 ans, la quantité de cocaïne livrée et arrivant à destination en Europe était à la louche de 50 tonnes par an. Aujourd'hui, c'est 250 tonnes, multiplié par 5. Personne n'en parle, y compris dans notre campagne électorale. Imaginez ce qui se passerait si, 5 ans après, par rapport à 5 ans avant, il y avait 5 fois plus de malades du sida ou 5 fois plus de chômeurs. Là, on n'en parle pas. Et cependant, l'inondation est là. Les quantités d'héroïne remontant la route des Balkans vers chez nous, à la louche aussi, c'était 2 à 3 tonnes en l'an 2000 par mois, et maintenant c'est 8 à 10 tonnes par mois. Donc, dans ces conditions-là, la lutte contre le crime, c'est simple. Quand il y a une lutte contre le crime efficace qui est menée, les quantités de saisies augmentent dramatiquement, et donc les prix de la drogue dans la rue augmentent, parce que la demande est de plus en plus importante et l'offre est de moins en moins importante. Ça fonctionne comme le chewing-gum ou comme les cacahuètes, c'est un marché. Et dans ces conditions-là, la drogue devrait avoir augmenté s'il y avait un succès. C'est enfantin. Succès de la lutte contre les trafics internationaux, victoire signifie la cocaïne qui coûtait 100 dollars le gramme coûte 500 dollars le gramme. Là, il y a un succès. Il y a un succès. C'est le contraire. Elle n'a jamais été aussi bon marché. Dans certains coins de Suisse, où la mafia albanaise est bien implantée, l'héroïne qui coûtait 50 francs suisses le gramme s'est mise à coûter 5 francs suisses le gramme. Parce qu'il y a 12 dealers les uns à côté des autres et l'inondation est telle que, bien entendu, les gens n'arrivent plus à la vendre, donc ils sont obligés de casser les prix. Donc, l'échec. Pourquoi l'échec en question? Pourquoi, alors que des moyens énormes ont été mis en œuvre, des satellites, des avions de très haute technologie comme les AWACS dont je vous ai parlé tout à l'heure, des sous-marins qui ont été reconvertis là-dedans, des conventions internationales, des lois internationales, des conférences internationales, des traités, des conférences de magistrats, de policiers, de douaniers, d'agents de renseignement, etc. Pourquoi cet échec? À cause de l'aveuglement. Les gens ne font pas ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Ils se précipitent vers des solutions toutes faites en disant « Bon, on va prendre un avion à Wax, alors ils utilisent des avions pour transporter de la drogue, alors on va prendre un AWACS et donc on saura tout ce qu'on doit savoir. » Et de même que le général américain confondait, ouvrez les guillemets, Al-Qaïda en Irak, fermez les guillemets, avec l'armée républicaine irlandaise, de même on confond le cartel de Cali avec ou quoi que ce soit qui existe à l'heure actuelle, avec une espèce de version clandestine et à moustache et à sombrero de l'ex-Union soviétique. Aveuglement. On se trompe, on ne fait pas de diagnostic, on ne prend pas le temps de faire des diagnostics. Quand on ne fait pas des diagnostics, on foire le traitement. C'est à peu près certain. Donc voilà la journée d'aujourd'hui. Prenons conscience du fait que il faut étudier les choses dans leur réalité, il faut approcher le réel criminel le plus près possible, il faut se dire que nous sommes constamment et sans arrêt en danger et en risque d'aveuglement. On peut se tromper, il n'y a pas de bon médecin qui ne se dise pas toujours lui-même avec la plus grande humilité « Est-ce que je ne suis pas en train de me planter dans le diagnostic? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper ?» Et donc, de ce fait, il faut arriver au décèlement précoce à partir d'une conception exigeante de l'approche de la réalité et de ses propres limites. À chaque instant, on est menacé de dire, comme Joseph Staline, « Jamais mon ami Hitler ne me fera ça. » Donc, pas d'arrogance, de l'humilité et surtout de la recherche. Alors, j'en ai fini. Comment est-ce que la journée d'aujourd'hui va se passer ? Nous n'arrivons pas ici avec le texte du comité central, nous n'arrivons pas ici avec une doctrine, nous sommes ici dans un esprit de recherche, et rechercher, ça signifie prendre la perspective la plus large, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la perspective en question, et partant de là, essayer de comprendre, essayer de voir quelles sont les pistes utiles. La journée d'aujourd'hui est consacrée à ouvrir des pistes. Les pistes en question, elles sont de deux ordres. Il y en a des qui sont plus théoriques. Il y en a Michel Rimidel qui va prendre maintenant la parole, et puis le professeur Michel Petit, qui lui va parler des perspectives de tout ce que nous ouvre comme possibilité la détection ou le décèlement précoce en matière climatique. Vous voyez que le climat, on l'a vu, peut provoquer des catastrophes. Pas plus tard que ce mois-ci, dans une excellente revue américaine qui s'appelle The Atlantic Monthly, il y a un long article sur la dimension climatique de la guerre du Darfour. Vous avez vu les massacres que ça provoque, la sécheresse, tout ça, etc. Donc il y a une dimension qui nous intéresse indirectement, mais comme beaucoup du travail qui est fait en termes de prévision est dans le domaine de la météorologie, on ne peut pas se permettre de passer à côté. Mais en fin de compte, Michel Maffezoli, qui est un sociologue, un vrai, c'est-à-dire pas un gauchiste déguisé en sociologue, comme souvent en France, pour dire les choses telles qu'elles sont, clairement, qui a des idées passionnantes sur la société actuelle, qui a une culture philosophique qui lui permet de dire des choses sérieuses et bien ancrées, viendra tirer les conclusions de cette journée en vous disant pourquoi il est important, dans la société où nous vivons, de voir les choses précocement et pourquoi il est mauvais de se trouver dans la position où nous sommes trop souvent à l'heure actuelle, où est l'Amérique à l'heure actuelle, malgré ses gadgets et ses hochets, où nous sommes trop souvent, c'est-à-dire dans la position du gardien de but au moment du tir au pénalty. Ça n'est pas une position confortable. Souvent, on se retrouve avec le truc dans les filets, et tout ce qui tourne autour du décèlement précoce est destiné à terme. Il y aura un travail de percolation, un travail de méditation, de rumination, appelez ça comme vous voulez. Tout ça vise à nous éviter de nous trouver dans cette position gênante. Donc bienvenue à tous, on va beaucoup travailler aujourd'hui, donc il y aura peu de temps de repos, mais il faut ça pour faire les choses sérieusement, et François et moi souhaitons à tous d'en tirer de la journée en question le plus de bénéfices possible, de revenir vers nous après ça avec des idées nouvelles, de dire oui mais moi ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait penser à ça, etc. Et de développer l'espèce de terreau fertile sur lequel pousseront les nouvelles plantes de la criminologie de demain. Sur ce cliché concernant, je vous souhaite une bonne journée et donc je repasse la parole à François.